Virage Marseille avec Oco, une filtration fiable pour votre eau.
Sur tous les terrains de la vie, soyez protégés. Virage Marseille avec Mutuelle du Soleil. Santé, prévoyance, auto, habitation.
On ne s'attendait pas à traverser une zone de turbulence aussi tôt dans la saison. Et pourtant, l'Olympique de Marseille a annoncé ce mardi après-midi placer Adrien Rabiot sur le marché des transferts.
Ça, c'est quelque chose qui a débordé les limites. Et tu débordes les limites quand en fait il n'y a pas de règles. Même dans un bagarre, que c'est un bagarre complètement qui dépasse tout et toutes les limites.
14 ans après, l'Olympique de Marseille s'est imposé face au Paris Saint-Germain à l'Orange Vélodrome en Ligue 1. Roberto De Zerbi et ses hommes ont réalisé le coup parfait. L'OM qui a battu l'Ajax Amsterdam 4 buts à 0.
Ce centre, Yaïma. L'arbitre a mis la main au sifflet, qu'est-ce qui s'est passé? Oh, de Samaric! Oh là là, qui vient nous crucifier! Oh là là! Attention,
c'est
en direction.
Non, c'est pas possible.
Second
jeu,
contre Real Madrid, c'est le gardien qui marque. Le gardien de Benfica qui démarque contre Real Madrid. C'est pas possible, messieurs. C'est impossible. L'OM est éliminé de la Ligue des Champions après ce but de Benfica. Mais non.
Nuit agitée, car pendant que l'on dormait, l'Olympique de Marseille a publié aux alentours de 2h du matin un communiqué actant la séparation d'un commun accord entre son entraîneur italien et le club phocéen.
Déjà, c'est une grande fierté, très très heureux d'être ici.
Ethan Wanneri, le jeune anglais qui s'élance, et voilà, c'est fini. C'est fini pour l'Olympique de Marseille. Ça passe largement au-dessus.
Pourquoi il faut une base?
Moi, mon choix, c'était de partir avec effet immédiat. Tu n'acceptes pas, je me suis mis au service du propriétaire et je suis resté pour finir la saison, en sachant que ça allait être très difficile, évidemment, à ce moment-là.
Je considère que le bilan à la 34e journée est le bilan qu'on mérite.
Ah, c'est impossible, c'est... Le gardien portugais qui vient de marquer.
Bonjour à tous, quelle saison nous venons de vivre. Bienvenue dans Virage Marseille. Serais-je devenu fou sans cette pause à vivre de si près, cette lente agonie, cette autodestruction? Ce qui devait être un sprint final plein de folie, d'ambition, n'aura été qu'un long chemin de croix, l'issue finale inéluctable. Semaine après semaine, prestation calamiteuse après prestation calamiteuse, présentée autant de virages sans espoir, me donnait l'impression de tourner en rond. Depuis Bruges, l'OM avançait tout droit vers le crash. Que reste-t-il de ce navire à la dérive, une épave qui finit la saison sans gloire ni trophée? L'OM est passé en quelques mois, de prétendant à une phase finale de Ligue des Champions, à loser de premier plan, de cador plein d'envie au Bernabeu, à de pitoyables clowns sur la pelouse de Nantes. Le sursaut d'orgueil et cette dernière victoire face à Rennes ne changera rien. La rancœur bat dans les cœurs marseillais. Nous héritons aujourd'hui d'un club en détresse, naufragé. Il va falloir désormais tout reconstruire. Mais voyons quand même le positif, le calvaire que nous subissons étant enfin terminé. Bienvenue dans Virage Marseille spécial bilan ce soir avec nos invités. Pendant une heure, on va revenir sur cette saison complètement folle, inédite de l'Olympique de Marseille avec tous ses rebondissements. Ravi d'accueillir sur ce plateau Florent Germain, Alain Soultagnon, Omar Kedadouche et Steve Elana. Messieurs, pas casting 5 étoiles pour cette dernière semaine et pour mon retour. Merci beaucoup d'être là, à vous quatre.
Et longue vie à Pablo.
Longue vie à Pablo, voilà. C'était la raison de mon absence. Hein. C'était évidemment pas l'Olympique de Marseille qui m'a fait quitter ce poste, mais bien la naissance de mon fils.
L'allergie, il n'a pas sorti la bandelette, là, ton filou.
J'ai pas envie, franchement. L'Ajax a eu son football total, le Barça a eu son tiki-taka, l'Atlético, son cholissimo. Nous avons eu droit à quoi, nous, messieurs, cette année, à l'Olympique de Marseille?
Le Titanic.
Le Titanic.
Ah oui.
Le Titanic, ouais, c'est pas mal ça.
J'ai cherché. Vol au-dessus de nid des coucous, si tu préfères.
Ouais, pas mal. Si vous êtes inspiré, messieurs, vous pouvez y aller de votre petite phrase. Mais bon, c'est vrai que cette saison, on l'a vu un petit peu dans ce sommaire, a été complètement dingue. Et finalement, l'objectif n'est pas rempli. On échoue à 2 points seulement. Quand on voit cette dernière journée avec ces défaites de Lille et de Lyon, on peut se dire que les regrets seront éternels. Pas de Ligue des Champions, donc l'année prochaine, mais bien une Ligue Europa au final. Bah, c'est peut-être aussi notre niveau. Il manque 2 points à cet OM pour atteindre son objectif. Pour les finances, ça aurait été bien. Suite était bien. Voilà, pour le sportif, bah, on se contentera de la Ligue Europa. Mais je crois qu'Alain, tu es plutôt content, toi, parce qu'il vaut mieux être 5e que 4e, finalement.
Ah oui, surtout pas 4e.
Parce que c'est 2 matchs de barrage. Tu commences en juillet, tu n'as pas de préparation. Oui. Et tu n'es pas sûr de disputer la Ligue des Champions.
Exactement.
Et ça, c'est terrible quand on sait à quel point la préparation nous a porté préjudice cette année. Et merci. Des joueurs en perdition très tôt dans la saison. Revenons sur ce match. Ce 3-1 hier soir au Vélodrome face à Rennes. Il fallait quand même finir sur une bonne note. Est-ce que ça change quelque chose, selon vous, Flo? Bon, bah toi qui as suivi et qui, depuis la première journée, suit tous les matchs et commente les matchs pour RMC, cette dernière victoire à la maison, elle représente quoi pour toi?
Écoute, hier je disais que ça ne sauvait pas la saison, mais que ça pouvait sauver la prochaine.
L'été.
Parce que l'été et la prochaine saison. Parce qu'au final, c'est bien qu'il y ait un petit parfum européen quand même au Vélodrome. Là, on a le sentiment que les supporters marseillais, de toute façon, ils avaient fait une croix sur cette saison. Et ça s'est vu au stade. Il n'y a pas eu de scène de joie. J'ai même craint à un moment donné que ça chauffe malgré la victoire. Parce qu'une partie des ultras, notamment, sont vite partis. Donc voilà, il y avait, tu l'as bien dit, le souhait que ça se termine vite, mais après je pense que la saison n'est pas sauvée, mais qu'il est important quand même de terminer sur cette petite note et sur cette 5e place pour tout le monde, parce qu'au final je ne sais pas si c'est la place de l'OM d'être en Ligue Europa. Je pense qu'avec la nouvelle formule, l'OM peut avoir sa place en Ligue des Champions, mais au moins que il y ait ces soirs européens, parce qu'au final c'est quand même de belles ambiances et je pense que Marseille a besoin de ça.
C'est une qualif directe pour la Ligue Europa, cette 5e place en France. Il n'y aura pas de reverser, même si le Paris Saint-Germain gagne la Ligue des Champions. La seule éventuelle possibilité que l'on dispute ces barrages, c'est si Lyon est recalé par l'UEFA pour ses finances. Mais vu les nôtres, je ne pense pas que ce soit bien mieux. Omar, cette dernière victoire hier soir face à Rennes, est-ce qu'elle permet d'entrevoir quelque chose de positif, ou est-ce qu'elle renforce encore plus notre rancœur? Parce qu'on voit que quand ils veulent, les Marseillais peuvent gagner des matchs.
On peut avoir que des regrets, parce que moi je ne reviens pas sur ce que j'ai dit toute la saison. On avait un effectif de qualité. Malheureusement, on a tout très mal géré tout au long de la saison, de l'affaire Rabiot, d'où c'est parti selon moi, jusqu'à là, dernièrement, avec la conf, l'interview de Benassa, que j'ai bien aimé d'ailleurs, même si je ne suis pas d'accord avec tout, mais il y a beaucoup de choses qu'il dit qui est vrai. On se rend compte que pas besoin de remonter tout le championnat et de dire là, si on avait gagné, non, tu gagnais Nantes qui était dernier, que tu as perdu, qui t'a battu 2 fois, tu étais en Ligue des Champions, c'était terminé, tu prenais 3 points, tu n'as même pas besoin. Donc oui, des regrets, parce que j'entends ici et là, on n'a pas le niveau pour aller en Ligue des Champions. Ok, je veux bien. Sauf qu'en n'allant pas en Ligue des Champions, on se prive quand même d'une manne financière très importante et vitale pour le club. On va devoir vendre, y compris peut-être un mec comme Greenwood qui apparemment veut rester, mais peut-être qu'on va être obligé de devoir le vendre. Et ça, moi, je trouve ça regrettable.
Voilà. On va évidemment en parler de ces mouvements qui s'annoncent pour l'Olympique de Marseille. Regardez, on vous a compilé un petit peu les matchs dans lesquels l'Olympique de Marseille aurait pu prendre ces 2 petits points. Steve, j'ai envie de te poser cette question. Est-ce que finalement... c'est rageant, ou alors c'est notre vraie place d'être à la 5e place, parce qu'en fait un championnat ça parle, hein. C'est à la fin, on fait les comptes et on est 5e.
Pour être pragmatique, je pense qu'une saison, elle ne se résume pas à une victoire, je pense que c'est une continuité. Alors effectivement, ce tableau, il est intéressant, parce qu'on voit quand même, au-delà de parler du match de Nantes, le nombre de points qui ont été perdus.
Là, bah, tous les 2-2, quasiment, on prend dans les 5 dernières minutes un but.
Alors c'est surtout contre des équipes qui étaient potentiellement à portée de cet effectif à l'origine, sur le papier en tout cas. Maintenant, ben je pense que malheureusement, ça me fait du mal de dire ça, mais je pense que l'OM est à sa place cette année, par rapport à tout ce qui s'est passé, par rapport à la gestion de beaucoup de choses, par rapport à beaucoup d'épiphénomènes qui sont devenus des catastrophes, on va dire. Alors oui, manne financière, oui. Et si le club était qualifié pour la Ligue des Champions, ok. aujourd'hui, on aurait certainement le même discours, certes, en se disant bah, au moins il y a ça. Mais je pense que c'est l'arbre qui aurait un petit peu caché la forêt. Je pense qu'il faut peut-être, c'est peut-être l'occasion, ce sera peut-être l'occasion de repartir sur de nouvelles bases pour le club. Et puis c'est ce qu'il faut espérer. Et puis partir sur des bases. Je ne pense pas que gagner tous les matchs, c'est une chose, mais ça dépend de la manière de ce qu'on met en place. Il y a le fond et la forme. Et je pense que dans le fond, ce classement va peut-être permettre un travail de reconstruction. Et puis en espérant des jours meilleurs.
On va en parler évidemment de cette reconstruction dans la deuxième partie de ce long virage Marseille d'une heure aujourd'hui. On va d'abord écouter Habib Bey à l'issue de la rencontre hier soir. Vous l'avez brièvement entendu dans le sommaire. Il dit qu'il est à la place, qu'il mérite ce club.
Je considère que le bilan à la 34e journée est le bilan qu'on mérite. Aujourd'hui, on a à 2 points de la Ligue des Champions, mais on a perdu des points, et vous le savez. Et on a la place qu'on mérite, c'est-à-dire celle qu'on est allé chercher ce soir.
Alain, ton regard sur cette fin de saison et cette cinquième place aujourd'hui à l'heure du bilan ?
On ne mérite pas mieux. On ne mérite pas mieux. Quand je vois que Nantes nous a pris 6 points quand même. Nantes
oui,
nous
puis,
a pris 6 points.
Ils ont mis 5-0.
Combien de matchs avons-nous mené par 2 buts d'écart et combien de matchs avons-nous laissé filer à 2-2 ?
À le Paris FC.
Simplement 2 points de plus, on était en Ligue des Champions. Et uniquement sur le plan financier. Parce qu'on n'a rien à faire en Ligue des Champions. On n'a rien à faire.
Bah quand voilà. On voit comment on est éliminé, on peut espérer quand même une phase finale. Quand même sur, quand on voit qu'on est capable, on pense à ces matchs face au Real, face même au Sporting, où on a été plutôt bon. C'est ce match face à l'Ajax, tout allait bien à cette période-là. On était plein d'espoir, on était qualifiable.
On était dans la première partie...
Du tableau.
Mais dans la première partie de la saison.
Oui, c'est vrai.
Et après, on a chuté à partir de fin janvier, début février. En fait, le trophée des champions, on ne l'a pas gagné. Mais si on ne l'a pas gagné, c'est parce qu'on ne mérite pas de le gagner quelque part. On a laissé filer le match. Parce qu'on n'a pas pu, soit au niveau de la concentration, soit au niveau physique, soit au niveau du mental, on a lâché ce match contre Paris.
Ça peut pas être un hasard, je pense, quand on a vu le tableau là. C'est vrai que c'était intéressant parce que quand tu vois toutes ces rencontres pendant lesquelles l'OM a craqué sur la fin, ça peut pas être l'histoire d'une fin de match un peu hasardeuse.
Non.
Je pense que c'est lié à ce que dit Alain, oui, c'est que mentalement Marseille lâchait, peut-être qu'on n'était pas assez costaud. Il y avait parfois, je pense, trop de nervosité en interne qui peut-être pouvait rejaillir sur les joueurs. Donc ça t'arrive une fois, deux fois, trois fois dans une saison. Mais là, on sentait que quand une équipe revenait à un but, même si tu avais mené 2-0, tout de suite il y avait le feu derrière. Donc je pense, moi, enfin comme le dit Steve, hein, je pense qu'à un moment donné, un classement, c'est... C'est 34 journées, t'es obligé de te baser sur une réalité.
Tu peux pas faire mieux en termes d'équité. Quoi.
Effectivement, enfin, un match retour, 8 mois de compétition, 9 mois, et au final, c'est la vérité. Donc, même s'il n'y a que 2 points et que c'est rageant, on peut le dire, Marseille mérite d'être 5e, enfin, point barre.
Si tu regardes le match d'hier, le dernier quart d'heure, ou si tu n'as pas un roulis qui te sort des arrêts de fou, ils mettent un poteau.
Tu prends le 3-2, peut-être que derrière, ils égalisent.
Même ils égalisent, ils reviennent à 3-3.
Je crois qu'il y a eu un record en nombre de tirs dans l'histoire des stats comptées. Hein. 22 pour Rennes, 20 pour l'OM. C'est monstrueux. Alors, tu as eu du boulot, hein, en tant que gardien. Là,
c'est pas normal.
Après, ça a été un match ouvert, quand même. L'OM a gagné, ça a été un match où j'étais au stade en plus, donc j'ai pu ressentir le truc. Honnêtement, en tant que joueur, je pense que rentrer dans ce match et mener au bout d'un quart d'heure 2-0, vu le contexte, c'était très, 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 très compliqué pour eux. Je pense heureusement qu'ils ont eu ce premier quart d'heure.
Oui.
Parce que honnêtement, quand j'ai vu l'annonce des joueurs, les sifflets, la bronca qu'il y a eu, honnêtement, j'étais avec des amis, je me disais, j'aurais pas aimé être à leur place. Hein. Donc ils ont très bien entamé ce match. Alors après, on peut évoquer Rennes, mais ce n'est pas notre problème, parce que si on évoque l'adversaire à chaque fois, on ne s'en sort pas. Ils ont gagné, ils ont marqué des buts, ils auraient pu en mettre bien plus, parce qu'ils ont eu énormément de situations, même des situations où des centres qui passent devant le but, où il n'y avait personne pour reprendre, ils ont eu énormément de situations qui n'ont pas concrétisé. Rouli fait un bon match. Mais après, c'est vrai que c'est un dernier match de saison. On sent aussi que les organismes des joueurs, des 22 acteurs, voire des 26 avec ceux qui sont rentrés, on sent qu'il y a quand même un petit coup de pompe là. Que la fin de saison arrive à temps. Donc moi, je suis content de la victoire. Après, c'est un match qui a été vivant quand même. On s'est pas ennuyé.
Bah oui.
Non,
oui.
C'est ça.
Il y a eu des beaux matchs.
On parle des supporters, mais moi, je trouve, j'étais au stade parce que moi, je suis abonné depuis des années, qu'ils ont été quand même plutôt gentils. Je parce m'attendais à pire.
Parce que Hübbert a marqué dès la deuxième. Ça
a non, mais les banderoles, tout ça et oui, tout. Oui. Bon, après, il y a eu des trucs et tout, mais je veux dire, quand même, je m'attendais vraiment à pire. Me trouver rigolo qu'ils fassent des chants Luis Gustavo, ça je trouve ça rigolo, quoi, tu vois, ouais. Jean-Michel Aulas et tout, mais c'est vrai que le fait que Hochberg marque dans les, même pas, quand il a marqué quoi,
2 minutes à la deuxième.
Deux minutes, mmh. Donc voilà, ça c'est un peu détendu un peu tout le monde, mais on a vu encore tout ce qu'on a vu cette année, les erreurs défensives, excuse-moi, les choix d'Habib Bey à la fin aussi, j'ai du mal à les comprendre. Mais j'ai l'impression qu'en fait, il se remet pas en question. Enfin, je ne sais pas comment vous analysez, mais j'ai l'impression qu'en fait, ouais, on est à notre place. Mais lui, jamais un moment, il dit, j'ai failli. Benassia l'a dit. De Zerbi l'a dit. Longoria, bon, il ne s'est pas exprimé. Mais à un moment, j'ai l'impression que dans ce bateau, c'est peut-être le seul qui ait jamais un moment dit, j'ai pas été à la hauteur. Certains l'ont dit.
Eh bien, on va voir dans ce virage Marseille quel destin pour Habib Bey. On en parlera dans une prochaine partie. On marque une courte pause, la première, et puis on se retrouve juste après. À tout de suite.
Virage Marseille avec Oco, une filtration fiable pour votre eau.
Sur tous les terrains de la vie, soyez protégés. Virage Marseille avec Mutuelle du Soleil. Santé, prévoyance, auto, habitation.
De retour dans Virage Marseille, merci beaucoup d'être avec nous. Une heure de bilan de cette saison que l'Olympique de Marseille achève donc à la 5e place. Messieurs, c'est une saison folle qu'on a vécue. Vous qui suivez l'Olympique de Marseille depuis des années, vous qui avez été joueur, kiné, évidemment journaliste et supporter, on va passer en revue avec quelques dates clés. Cette saison que l'on peut qualifier de cauchemar qui a débuté donc le 1er septembre 2025 avec cette altercation entre Adrien Rabiot et Jonathan Rowe. Rabiot quitte l'OM. Alors déjà, c'est le cataclysme qui ne se voit pas directement parce que derrière l'Olympique de Marseille bat, malgré le départ de son milieu de terrain, le PSG. La première victoire depuis des années. On était heureux. On fait un très beau match en finale du Trophée des Champions, mais on perd contre le Paris Saint-Germain. On débute bien la Ligue des Champions, puis après... Le cataclysme, évidemment Flo, toi qui suis l'Olympique de Marseille depuis des années, qui connais par cœur ce club, une saison comme ça, toi qui es un suiveur aguerri, on n'en a jamais vu avec autant de scénarios, de rebondissements aussi importants.
Ouais, bah on s'est beaucoup posé la question là, entre confrères, on est pas mal à suivre l'OM depuis bien longtemps. Pour beaucoup, et c'est mon cas, moi je pense que c'est la pire saison de ces 10-15 dernières années. Voire plus. Après, ça ne veut pas dire qu'effectivement, il y a eu des saisons sportivement où l'OM a fini encore plus loin. C'est pas le problème. Le problème, c'est qu'en fait, pourquoi à mes yeux, c'est la pire, et je la mets avec la 2020-2021 où il y a eu les incidents de la commanderie, c'était quand même une saison très épuisante aussi. C'est qu'en fait, un, tu t'attendais à beaucoup mieux. Je pense qu'à aucun moment, en début de saison, tu te dis ça va être chaud pour le podium. Il y a tous ces rebondissements-là, et c'est vrai que ça part très vite, trop vite, trop fort, avec l'histoire Rabiot-Rowe, et derrière, c'est presque un sketch perpétuel avec beaucoup de nervosité. Je pense qu'on a touché à quelque chose qui est important à Marseille, c'est la fierté de supporter l'OM, la fierté d'être Marseillais, tout simplement. Hein. Et quand tu as des épisodes comme à Bruges, où tu te fais passer, tu joues à la baballe derrière pour maintenir le 3-0, oui, oui, pour éviter d'en prendre un autre, qu'il y a l'histoire du gardien. Donc ça a fait évidemment plaisir à tous les ennemis de l'OM, mais c'est normal, hein, ça serait arrivé à un club ennemi de Marseille, je pense qu'on se serait marré. Tu rajoutes le 5-0 au Parc. Il y a eu des épisodes qui, en fait, ont été ridicules et honteux pour l'OM. Donc ça fait très très mal en termes d'image aussi, c'est pas que sportif.
Ben oui, c'est pour ça que cette saison, elle est épuisante. Les Parisiens qui célébraient les buts de Nantes. Exactement. Aussi au Parc, enfin, c'est la honte. Quoi.
C'est pour ça qu'elle est épuisante. Et je rajoute que bah là, on est quoi, fin mai, est-ce qu'on est capable, nous, de dire où va l'OM? Et c'est ça qui, je pense, est inquiétant, parce qu'on était quand même, on avait le sentiment que l'OM était sur une pente ascendante, construisait quelque chose avec des hommes forts, avec un coach, enfin un projet qui tenait la route, qu'on se rapprochait petit à petit, qu'on était dans le vrai, comme on dit.
On devait se rapprocher de Paris Saint-Germain.
Là, tout à voler en éclat. Exactement, tout à voler en éclat. Alors, et puis, comme le disent certains supporters, ajouter à cela, pour moi, la petite goutte d'eau qui peut faire déborder le vase, c'est le fait que bah, le rival historique est sur un nuage, est en finale de Ligue des Champions. Enfin, c'est un petit détail supplémentaire qui fait que moi je comprends le désamour, la rage et le fait que les supporters marseillais ils ont très très mal vécu cette saison-là. C'est logique.
Alain, toi qui as été au cœur du club pendant toutes ces années, tu as dû te mettre un peu plusieurs fois à leur place. Comment tu expliques cette saison folle? Est-ce que toi, de ton histoire avec l'Olympique de Marseille, toutes ces années que tu as passées au club, tu as déjà vécu une saison aussi folle?
Non. Non.
Par quoi elle est différente des autres, celle-là? Évidemment, on a parlé avec Flo de tous ces départs, de cette explosion en cours, oui, en fait.
Mais d'emblée, c'est parti d'entrée de jeu, c'est parti dès le premier match. Il y a eu un premier clash, alors que je vous répète des bagarres.
Il y en a eu plein.
Hein. J'en ai vu et revu, mais c'est innombrable, quoi, je veux dire. Et puis après les joueurs se réconcilient, c'est pas grave. Donc... On en est là. Mais
j'ai été surpris quand même qu'on en arrive à de telles proportions, que ce trio installé, qui était là pour faire de l'OM un club de top niveau, qui performe d'année en année en Ligue des Champions, je parle de Benassia, de Zerbi et Longoria, explose complètement en vol et qu'il n'y en ait plus aucun à l'arrivée aujourd'hui.
Ça, je ne peux pas l'expliquer parce qu'on n'est pas dedans. Non.
Ça t'a au sein de la direction. Surprend ?
Oui, c'est surprenant. Oui, c'est surprenant. C'est surprenant. Je pense que l'actionnaire a pris ses responsabilités et qu'il doit avoir ses raisons.
C'est vrai que Franck Macron, pour le coup, était assez ferme.
Mais je ne démordrai pas du fait que, à aucun moment, on peut dire que cette équipe nous a régalé.
Un petit peu en début
non,
de saison.
Non. C'est pas assez. Au moins sur 50 ou 60% des matchs, avec ce qu'on nous a présenté, tu dois te régaler. Et tu finis tous les matchs tendus, tremblants. Voilà. Donc, surtout dans la deuxième moitié de la saison. Et j'en reviens et je ne démords pas que j'ai un doute sur la qualité de la préparation d'avant-saison. Cette équipe qu'on a présentée comme une équipe de qualité, avec de la technique, etc., etc., elle n'a jamais pu exprimer sa technique. À part Greenwood, on le met à part. Greenwood à part. Elle n'a jamais pu exprimer ses qualités techniques. Pourquoi ? Parce que quand on n'a pas le physique, on ne peut pas exprimer la technique. Ça, c'est clair.
Ça, c'est sûr.
Voilà. Donc, j'aurais aimé être une mouche pour voir quel genre de préparation a eu lieu cette saison. Parce que les joueurs n'avançaient plus quand même.
Oui, non, et très tôt dans la saison.
Là, ils ont pris sur eux. Ils ont gagné ce match, ce dernier match. Bravo sur le plan mental, mais au niveau de la qualité... J'ai eu peur jusqu'à 10 minutes de la fin du match.
Oui. Ah, évidemment. Il y a le physique, évidemment, qui a pêché cette année, mais il y a aussi et surtout la mentalité, le fait de prendre beaucoup de buts dans les arrêts de jeu, de perdre énormément de points en cours. Une mentalité que Benassia n'a pas réussi à instaurer dans le vestiaire. Il avait la volonté de changer un peu la mentalité, de faire des guerriers. Écoutez Mehdi Benassia à l'issue de la rencontre.
Dans le moment où tu as un petit peu les moments difficiles dans une saison, dans une équipe de foot, une équipe avec des leaders forts, tu as toujours 2-3 mecs qui prennent le truc en main et qui vont te permettre de te remettre un peu sur les rails et d'une soirée mal embarquée, tu vas attirer un partout parce que tu vas pas en prendre 3, ça n'existe pas dans un club comme celui-ci. Et malheureusement, c'est ce qu'on a essayé de mettre en place. Moi, j'ai beaucoup parlé sur la première année où je suis arrivé, donc je répète les mots, j'avais parlé de l'année où on finit 8e, il y avait vraiment, en termes de mentalité, c'était pas du tout... ce qu'il faut voir, en tout cas sur le haut niveau. On a essayé de le corriger et force est de constater qu'on n'a pas réussi. Et ça, c'est pour moi le plus gros échec.
Steve, toi qui as été joueur, évidemment, comment on explique qu'il n'y ait pas eu 2-3 joueurs cadres, comme toi tu as pu l'être à une époque, qui aient pris les choses en main, qui aient montré l'exemple, qui aient réussi à se dépasser et guider un peu les autres, quoi.
Pour qu'il y ait des cadres, il faut... le mot qui va avec, c'est légitimité. Il faut être légitime auprès d'un staff, légitime auprès d'un public, légitime auprès d'un vestiaire. Auprès d'un vestiaire, je pense que certains joueurs avaient peut-être cette légitimité-là.
Mais ils n'avaient pas la volonté d'être cadre, c'est ça ?
Je ne sais pas. Parce que, alors, je vais répéter un petit peu ce qui a été dit, mais Adrien Rabiot, qui n'est pas Marseillais de formation, qui n'est pas Marseillais de naissance. Je pense qu'il a apporté quelque chose la saison dernière. Il a eu quelques coups de gueule à un moment donné. Mais si, lorsqu'il y a un joueur qui a un coup de gueule, on le sanctionne, ou est-ce que ou c'est mal pris, ou ça finit en bagarre. Alors après, j'étais pas dedans, donc je peux pas exactement dire ce qui s'est passé. Mais si, au bout d'un moment, on n'est pas en mesure de se mettre derrière son leader, ou derrière un de ses leaders, pour dire, bon, bah écoute, et puis remettre un vestiaire à flot. Moi, je rejoins Muso à 100%. C'est-à-dire que des bagarres, dans tous les vestiaires, il y en a. Maintenant, c'est qu'est-ce qu'on en fait de cette bagarre? Est-ce qu'on en fait quelque chose de positif? Ou est-ce qu'on en. On n'en garde que le négatif et du coup, on fait en sorte de sanctionner pour montrer que les vrais patrons, c'est nous qui sommes à l'extérieur. Ok, si vous voulez montrer que vous êtes les patrons à l'extérieur, derrière, il va falloir trouver un discours qui entraîne tout le monde. Or, si on n'est pas tous les jours avec les joueurs, on ne peut pas avoir ce discours qui soit porteur et qui soit positif tout le temps. Donc je pense qu'il y a des choses qui auraient peut-être dû rester au vestiaire, comme le fait de peut-être responsabiliser ce groupe. À un moment donné, en tant que dirigeant, je peux dire que, tiens, tenez les gars, je vous responsabilise. Il y a un capitaine, il y a un vice-capitaine, il y a un entraîneur. Trouvez les sanctions qu'il y a et qu'il faut pour les joueurs.
Il y a une rupture quand même entre certains joueurs et la direction. Enfin, moi, je pense à l'épisode de l'instincteur, j'étais consterné. Hein. Enfin, franchement, hier, Aubameyang qui célèbre en faisant le signe de l'instincteur.
Gamin.
C'est... Alors que c'est lui qui doit être le cadre.
Gamin.
Qu'est-ce que tu en as pensé, toi, Omar ?
Moi, de point de vue global, par rapport à tout ce que vous avez dit, j'avais dit ici, sur ce plateau, que l'histoire de Rabiot avec Rowe laisserait des traces, et malheureusement, j'aurais même trompé, mais ce n'était pas le cas. Il y a un petit club qui s'appelle le Real de Madrid, où je crois Valverde et Tchouaméni en sont venus au point qu'un finisse même à l'hôpital. Je ne crois pas, sauf erreur de ma part, que Florentino Pérez les a mis à la porte, tous les deux. Nous, on a mis Rabiot dehors, donc déjà, je pense que là, fondamentalement, il y a une erreur. Moi, je ne vais pas, sur le travail de Benatia, parler que des choses négatives parce qu'il a fait du bon, parce que c'est aussi lui, Rabiot, qui le fait venir, si je ne dis pas de bêtises. Par contre, sa sortie à Lorient, je pense que ça a été une erreur monumentale d'assassiner tes joueurs publiquement. Hier, il a fait, hier, il s'en va, il fait un bilan, ok, légitime. Mais, comme on dit, le linge sale se lave en famille, donc tu as des choses à dire à tes joueurs entre quatre yeux, tu les convoques, tu parles avec eux, mais pas devant tout le monde, tu les humilies, parce que après, il ne faut pas s'attendre à ce que les mecs que tu humilies, parce que tout le monde a compris de qui parler, en plus, je veux dire, bon, on n'est pas bête, et que le match suivant, ils vont se mettre minables. Donc, il va se passer quoi? Ben, il se passe ce qui s'est passé à Nantes, ouais. Tu perds, tu te fais humilier, et tu perds tes objectifs de saison.
Ils l'ont fait exprès,
après, c'est impossible. Moi, il y a quelqu'un qui m'agace, même si j'ai rien contre l'homme, j'aimais bien le joueur qu'elle joue à l'OM, c'est Abibay. Alors, je parlais de remise en question. Il y a aussi une question de légitimité. Alors, vous ne serez peut-être pas d'accord avec moi, mais c'est ce qui est intéressant dans les débats. Quand tu t'appelles Zidane, que tu dis à un James Rodriguez, à un Gareth Bale, écoute, tu vaux 100 millions d'euros, 120, tu n'es pas bon, tu vas sur le vent. Tu peux. Mais quand tu as un Abibay qui souffle le chaud et le froid, t'en dis un côté les couvre, après il dit dans les médias locaux, ah ouais, mais là je ne peux pas vous couvrir. Je dis, qu'est-ce que c'est entré là? Tu parlais de Aubameyang. Moi, mais comme Aubameyang, ce qu'il a fait avec l'extincteur, jamais je le mets sur la feuille de match. Pour moi, tu as une exemplarité. Il a fait une gaminerie d'un gamin de 12 ans. Qu'est-ce que c'est, ça? C'est ces trucs que tu fais. Oui, c'est un jean d'un professionnel. Le mec, il a 40 piges, c'est un père de famille. Tu t'amuses avec des trucs comme ça. Alors, certains ont fait le parallèle avec Adil Rami. Ouais, mais Adil Rami, quand il l'a fait, on a été champion du monde et ça a été fait dans la bonne humeur, dans une bonne ambiance. Là, il y a une ambiance détestable.
C'est pas le moment de
ben,
faire
franchement, c'est quoi c'est... Moi, honnêtement, je comprends hier qu'il s'est pris une bronca au bas. Il les mérite, qu'il ait marqué ou qu'il ait pas marqué. Parce que, et je sais si je l'ai défendu, parce que j'estime qu'il nous a beaucoup apporté. Après, il y a tout un tas de raisons qui font que tout le monde dans ce club a failli. Moi, je le disais depuis janvier, il fallait, quoi qu'on puisse lui reprocher, continuer avec cette équipe. Avec deux herbies, même si on en a pris cinq, parce que je suis désolé, il n'aurait pas fait pire que Bay.
Ben
voilà, il a fait ses erreurs. Ok, lui, il faisait 36 000 compositions. Ok, il en a fait des erreurs. Mais je m'excuse, quand il était encore en poste, on était troisième, on était engagé en Coupe de France, et on était quand même
toujours en selle.
Après, donc, c'est dur de demander à un coach qui sent qu'il n'a plus les ressources, que son discours ne passe plus, de continuer. Oui, je sais, mais ça avait déjà été fait, Omar. Le problème, c'est là, ils ont eu un coach qui a baissé les bras. Mais moi, je suis avec toi, je suis dans le même train. C'est-à-dire que, en plus, j'aimais
beaucoup. Flo, si tu enlèves quelqu'un, c'est pour avoir mieux.
Mais je sais, voilà. Mais ils ont senti une fois, deux fois, trois fois qu'il n'avait plus les mots. Qu'il n'y arrivait plus. Et pour lui, c'est un drame à De Zerbi, parce qu'on ne va pas le représenter. C'est quelqu'un qui vit football, qui a besoin de sentir qu'il y a du répondant en face. Quand tu donnes autant, comme le fait De Zerbi, si tu vois que le vestiaire n'a plus de répondant, en fait, tu le vis comme un échec personnel. Et lui, il a senti, mais même avant PSG, hein, le déclic final, ça a été Bruges, mais tu peux parler de OM Nantes ou d'autres rencontres où il a senti, il s'est dit, mais c'est quoi ce groupe? C'est quoi ce vestiaire qui est mort entre guillemets et qui ne me comprend plus?
Lui, il a très très mal vécu. Comment va se comporter sur le terrain?
Voilà. Et donc en fait, l'histoire, on la connaît. Hein, c'est que De Zerbi, moi je l'ai senti quand j'étais au parc et qu'il dit il faut que je voie Longoria et Benatia. Bon bah le discours il est clair, c'est qu'il veut les rencontrer, qu'il a jeté l'éponge. Ouais, mais et malheureusement c'était dur à.
Je prends un Abibay qui, excuse-moi, s'est fait jeter de Rennes, qui a pas marché.
Mais ça, on pouvait pas le savoir.
Non, qui s'est fait jeter de Rennes, ça on le savait.
Oui, voilà. Alain, avant d'écouter. On écoute d'abord Benatia, justement, sur ce point de bascule et ce départ de Roberto De Zerbi.
Là, je pense qu'on va tous partir un petit peu en vacances. J'ai eu pas mal de sollicitations pour m'exprimer. Donc déjà, je remercie ces gens pour ça. Mais j'aurai le temps de revenir sur tout. Il y a eu beaucoup de choses qui n'ont pas été dites. Je pense à quelqu'un comme Roberto, par exemple, qui est parti. Je sais très bien la tâche qu'avait Roberto De Zerbi pour l'Olympique de Marseille. Je sais exactement ce qu'il ressentait quand il rentrait dans ce stade. Et j'ai mangé chez lui à Aix, je pense, 10 jours ou 15 jours avant que ça tourne mal, on va dire, 20 jours peut-être. Et pour que quelqu'un comme ça parte et qu'il n'a même pas pris le temps de s'exprimer, c'est qu'il en a forcément gros sur la patate. Et je le comprends parce que ça n'a pas été facile. Mais pour moi, au moment où il s'en va, déjà, je dois partir avec lui. Parce qu'il a fait des sacrifices pour venir ici. Il est venu, il a souvent répété, beaucoup, entre guillemets, pour moi et pour l'image qu'il avait de l'OM. Donc c'est pour ça que je devais suivre, c'était logique. Et je me suis retrouvé, comme maintenant on la connaît, l'histoire. Il y a Franck qui m'a demandé de rester, qui a refusé que je fasse l'impasse sur mon préavis, parce que j'avais ce fameux préavis donc, que je devais... Je devais respecter, donc voilà, je ne me suis pas senti à ce moment-là de le laisser, on va dire, un petit peu en difficulté. Donc je lui dis, écoute, moi, mon choix, c'était de partir avec effet immédiat. Tu n'acceptes pas, je me suis mis au service, entre guillemets, du propriétaire et je suis resté pour finir la saison, en sachant que ça allait être très difficile, évidemment.
Alain, c'est un regret pour toi, le départ de Roberto De Zerbi?
Qui peut le dire? Je ne sais pas s'il aurait fait mieux que Bay ou pas. On ne peut pas savoir. Ce ne sont que des présomptions. Moi, je voudrais revenir avec Steve sur un fait quand même. Trop de choses ont été étalées au grand jour. Dans le vestiaire, c'est sacré, Steve. Tu le sais. Ce qui se passe dans un vestiaire reste dans le vestiaire. Et il y a trop de choses qui ont été étalées au grand jour qui ont foutu la merde, en fait. Voilà. Donc... Premier point. Deuxième point, on ne parle plus du cas de Aguerre, qui, pour moi, était le meilleur de tous les défenseurs que nous ayons au club. D'accord? Tu te souviens m'avoir dit, un jour, c'est même toi qui me l'as appris, qu'il avait une pubalgie. Mm-hmm. Qu'est-ce que je t'ai dit?
C'est grave.
Non. Mais je t'ai dit, il faut faire quoi? La première chose, c'est quoi?
Il faut l'opérer.
Non. Je t'ai dit, stop. On arrête tout, oui. Repos, déjà.
Il est parti faire la canne.
Et il y a tout un protocole de soins adapté à, selon le degré de lésion au niveau de la pubalgie, qui se pratique. Et si on n'y arrive pas, là, on opère. OK? Qu'est-ce qui s'est passé?
Il a joué,
il a fait la canne. Il a fait la canne jusqu'à la finale. Il s'est bien déchiré. Puis il est revenu, on a continué à le faire jouer. Résultat, on est arrivé à l'opération. Et on a perdu un défenseur qui, s'il s'était préservé lors de la CAN, on n'en aurait peut-être pas été là. Voilà. En tout cas, on n'en parle pas de ça.
C'est important ce qu'il
dit. On n'en parle pas de ça.
Moi, je me rappelle d'un Payet qui avait raté l'Euro à cause de l'OM. Là, on a un mec qui a raté sa saison à cause de sa sélection. Ouais.
je respecte la sélection, évidemment.
C'est la Coupe du Monde, en 2018.
La Coupe du Monde, pardon, qui était sorti en larmes. Mmh. Là, tu as quand même un mec, et il a raison, moi je suis d'accord avec vous, c'est notre meilleur défenseur. Pour moi, oui, je le mets au-dessus des autres.
Et quand Dogbia, on en parle, j'en reviens toujours au même.
Dogbia, il n'a plus le même niveau. On va justement reparler dans la troisième partie, qui est la, le début de notre deuxième grande partie de ce virage Marseille-Bilan aujourd'hui de la saison. Qui doit rester, qui doit partir un petit peu. On va faire la revue de l'effectif. Reste avec nous, à tout de suite.
C'était Virage Marseille avec Coco, une filtration fiable pour vos trous.